Bonjour à chacun. Au menu de ce matin, la suite des Corinthiens, chapitre 6. Ah, vous dites peut-être, on va encore se faire gronder ce matin. Non, il ne faut pas le voir comme ça. On va être encouragé à faire des progrès. Et de toute façon, c'est comme le confinement. Je vous préviens, on en a pour plusieurs semaines. Alors, comme on dit, faisons avec, car c'est bon et nécessaire pour nous, même si c'est désagréable. Lecture 1er épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 12. 1 Corinthiens 6, chapitre 1. Lorsque l'un d'entre vous a un litige, quelque chose, avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante? Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge déjà dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant des incroyants. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns envers les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous au contraire qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et c'est envers des frères et sœurs que vous agissez ainsi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été déclaré saint. Vous avez été déclaré juste au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Jusqu'ici. Verset 1. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, quelque chose, comment ose-t-il demander justice devant les injustes? Être jugé par des gens du monde et non par des saints. Eux, comme exposition du péché. Dans l'église de Corinthe, les frères et sœurs sont en procès les uns contre les autres. Vous avez remarqué, la tournure de la phrase est telle qu'il pourrait même y avoir plusieurs cas, passés ou présents. On n'imagine pas que cela soit possible. Comment? Et ce matin, peut-être vous êtes outré avec l'apôtre Paul. Donc, cela ne nous concerne pas ici, à Figeac. Mais il y a 2000 ans, dans le monde gréco-romain, ce n'était pas la même chose qu'à Figeac. On lit en effet dans Acte 19, c'est un exemple, que le secrétaire du théâtre avait ramené au calme les orfèvres, vous savez, qui reprochaient aux chrétiens de saboter leur commerce d'idoles. Ils avaient fait une grande émeute et au théâtre, le secrétaire dit simplement ces paroles. Il y a des jours d'audience et des proconsuls. que les protagonistes, s'appellent en justice les uns les autres. Pourquoi se fâcher, se disputer? Les tribunaux sont là pour couper et trancher les litiges. Alors avant de vous précipiter à jeter la pierre sur cette église de Corinthe, n'oublions pas la petite lettre C de contexte. Écoutons plutôt attentivement la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de prendre des jugements de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante? Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte. La parole de Dieu n'est pas contre les tribunaux et les magistrats. Ils sont là pour notre bien, explique Paul dans le chapitre 13 de l'Épître aux Romains. Et encore dernièrement, nous avons lu dans l'Épître de Tite cette recommandation d'être soumis aux magistrats et aux autorités. Alors finalement, quel mal y a-t-il d'aller devant les tribunaux pour régler nos problèmes? Il y a un problème, et un gros problème même, tout aussi gros que l'incompatibilité de la pratique incestueuse avec les exigences apostoliques dont nous avons parlé la semaine dernière. En effet, les chrétiens sont saints. Les Corinthiens qui avaient, passez-moi l'expression, les deux pieds et les deux mains dans la boue du paganisme, étaient tous saints. Et à Figeac, malgré toutes nos imperfections, nous sommes saints. Mais c'est quoi la sainteté? En lisant un texte que nous avons lu au tout début, à l'automne, de notre épître aux Corinthiens. Chapitre 1, verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, à tous ceux qui ont voté en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Les cinq sont donc appelés, sanctifiés, non pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais sur une initiative de Dieu. L'étymologie du mot grec « ecclésia » dans le texte original et qui a donné en français le mot « église » qui signifie « une assemblée » peut être traduit « appelé hors d'eux ». L'église est donc un rassemblement de personnes appelées hors du monde par Dieu et pour Dieu. Les saints jugeront le monde et les anges. Il y aura un jour de grand jugement. Toute la Bible annonce cet événement. Et peut-être aussi vous êtes comme les nombreux chrétiens et des non-chrétiens aussi qui lisent les temps d'épidémie que nous vivons comme les prémices d'un jugement à venir. Jésus n'a-t-il pas prévenu? Il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des pestes, des famines. L'occasion de revenir à Dieu tant qu'il est temps. Mais notre texte ce matin nous apprend un fait incroyable. Les saints jugeront le monde au jour du jugement. Et les Corinthiens savaient cela. Et nous aussi, nous savons cela. Comment ça? Dans notre texte que nous avions lu ensemble cet automne, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 15 à 16. Je commence au verset 14. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Nous avons l'Esprit Saint. Et notre texte affirme ce matin que nous jugerons le monde sous la tutelle, la délégation de Jésus, bien évidemment, et après avoir été nous-mêmes jugés par lui. C'est remarquable. Ayant le Saint-Esprit, nous avons la pensée de Christ. Les saints jugeront les anges, avons-nous lu. On peut penser ici au jugement des anges déchus, c'est pas précisé. Dans son commentaire, Robert Somerville écrit que ce verset nous rappelle que les anges sont des créatures. Ils ne peuvent pas être adorés. Comme l'ensemble de la création, les anges seront jugés par nous qui avons le Saint-Esprit, la pensée de Christ. Et, paradoxe, nous ne serions pas capables de nous entendre entre nous. Quelle image l'Église donne au monde lorsque nous nous disputons? Les enfants de Dieu habituellement méprisent le monde. Mais les Corinthiens, en faisant appel au monde pour régler leurs litiges, se plaçaient en quelque sorte en dessous du monde. C'est grave, c'est très grave, c'est un bouleversement qui ne doit pas être. La suite maintenant. Verset 5. Ainsi, il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse juger, qui puisse servir d'arbitre, qui puisse faire médiation entre ses frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère et cela devant les incroyants. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns envers les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Ne souffrez-vous pas d'une souffrance? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? L'apôtre Paul propose deux solutions. Ici, on a le S de solution. Trouver un médiateur, un arbitre dans l'assemblée pour rendre le jugement. C'est la solution du moindre mal. On sauve les meubles. Mais il y a une autre option. Se laisser dépouiller. Qu'a dit le Seigneur ? Sermon sur la montagne, Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 42. On connaît très bien ce passage. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Il est question ici d'abord de la loi du talion qui correspond à la justice des humains. Œil pour œil, dent pour dent. Autrement dit, que la punition soit proportionnelle à l'offense subie, qu'elle soit juste, ni trop forte, ni trop faible. Et ensuite, moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Ensuite, la loi de Christ. Si le dépouillement est la règle dans les relations extérieures à l'Église, combien plus cela est-il valable à l'intérieur de l'Église, dans les relations entre les frères et les sœurs. Versets 8 à 10 maintenant. Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et c'est envers des frères et sœurs que vous agissez ainsi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Le vrai problème des Corinthiens n'était pas qu'ils allaient au tribunal pour régler leur litige. Le vrai problème des Corinthiens est qu'ils avaient des litiges. Entre eux, ils étaient injustes, entre eux, ils se pillaient les uns les autres. Paul utilise la méthode forte, c'est le R de la rupture. L'apôtre rafraîchit la mémoire des Corinthiens avec une liste de choses incompatibles avec la citoyenneté céleste. Et cette liste, vous l'avez vu, ratisse large. L'immoralité sexuelle. On en a largement parlé la semaine dernière, je n'y reviens pas. L'idolâtrie. Chaque fois que l'on se réfugie ailleurs que dans le Seigneur, on est idolâtre. Chaque fois que finalement le Seigneur ne nous suffit pas pour nous consoler, où l'on cherche un plaisir ailleurs, une satisfaction ailleurs qu'en lui, on est idolâtre. Idolâtre, c'est avoir autre chose que Dieu au centre de sa vie. Au centre de sa vie, autre chose que Dieu. Les adultères, les travestis ou les efféminés, les mous, c'est se réfère à ceux qui ont le rôle de la femme dans la relation homosexuelle. Ensuite, les homosexuels. On a vu la semaine dernière ce que la Bible entend par homosexuel. Ce sont ceux qui couchent avec un homme comme on couche avec une femme. Les voleurs, les cupides, ceux qui n'ont pas le contentement, les ivrognes, les addicts. Une addiction est une obligation de satisfaire à un besoin nuisible. Où est Christ là-dedans? Les calomniateurs, les voleurs de réputation, les fabricants de fake news, les railleurs, les moqueurs. les ravisseurs, les exploiteurs, ceux qui volent les âmes. Avant d'aller plus loin et pour être concret, quelle est dans cette liste la personne qui vous fait le plus horreur? Vous avez la Bible sous vos yeux? Vous avez la liste au verset 9. Quelle est dans cette Bible la personne qui vous fait le plus horreur? Laquelle? Et quelle est la personne qui vous ressemble le plus, dont vous vous sentez, vous êtes la plus proche? Laquelle? Prenez une minute. Choisissez dans la liste le plus horrible et celui qui vous ressemble. Bon, peut-être de loin. Verset 10, le P du positif. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été déclarés saints. Mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu. Lavé, sanctifié, justifié, on a un package là. Tous ces événements se sont passés à un moment déterminé du passé, justement. Ça a été fait. Ça a été fait par Christ. Christ l'a fait pour eux, les deux que vous avez choisis dans la liste. Christ l'a fait pour moi. Christ l'a fait pour vous à cause de son amour. Pensez à votre identité. Je suis saint. Je suis de la famille de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Pensez à votre destinée évoquée au début du texte. Juge du monde et des anges. Comment se débarrasse-t-on d'un vice, d'une addiction, d'un péché avec quelque chose de meilleur? Avec quelque chose de meilleur. Et l'amour de Christ est meilleur que tout. Face à lui, la sexualité illicite est sans saveur. Les idoles sont des morceaux de bois pourris. Nos yeux ne peuvent se détacher de Jésus-Christ. Nos désirs sont purifiés. Notre intérêt est tourné vers les autres. Nous sommes désaltérés. Notre bouche ne fait que louer Dieu et nous offrons notre vie aux autres. Amen, frères et sœurs. Je vous propose deux chants pour terminer, le numéro 37, pour cet immense bonheur que Jésus a mis dans mon cœur, je veux te louer, et le 126, merveilleux, si merveilleux est notre Dieu. Prions. Seigneur, tu nous as lavés, tu nous as sanctifiés, tu nous as purifiés, tu nous as appelés des enfants, nous qui n'y étions rien que des pécheurs. Comment nous vois-tu pour que Tu es prévu de me confier même le jugement du monde. Quelle valeur avons-nous à tes yeux, ô Seigneur, que notre vocation soit toujours présente dans notre esprit tous les jours de cette semaine qui arrive. Imprime, Seigneur, notre identité dans notre cœur et dans notre mémoire, que nous vivions avec cette identité. Que nous n'ayons pas honte, que nous l'honorions et que nous la glorifions en Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes plus que nous étions. Nous avons une merveilleuse destinée. Merci Seigneur Jésus. Amen.